Ce serait heureux, Socrate, mais il faut qu'il le semble ainsi, non pas à toi seul, mais à moi comme à toi. Or, à mon avis, notre politique ne nous apparaît pas encore sous une forme accomplie. Mais comme les statuaires, en voulant quelquefois se presser mal à propos, se retardent au contraire en faisant prématurément des parties trop grandes et au trop grand nombre. Ainsi nous-mêmes, pour montrer promptement et d'une manière éclatante l'erreur de notre précédente division, et dans la pensée qu'il convenait de comparer le roi au plus grand modèle, nous avons soulevé la masse immense de cette fable et nous avons été contraints d'en mettre en usage une partie plus grande qu'il ne fallait. Par là, nous avons fait notre démonstration trop longue et nous n'avons pas pu avancer le récit, en sorte que, véritablement, notre dissertation ressemble à une peinture d'un animal dont les contours extérieurs paraîtraient suffisamment indiqués, mais qui n'aurait pas reçu le mélange de teintes qui donne le relief à la lumière. Et cependant, la parole et le discours sont encore préférables au dessin et à toute espèce de procédé manuel pour la représentation d'un animal quelconque, quand on a affaire à des gens capables d'entendre. Pour les autres, il vaut mieux employer la main. Cela est bien dit, mais montre-nous ce que tu ne trouves pas suffisamment expliqué. Il est difficile, mon cher, d'exposer avec une clarté suffisante de grandes choses, sans se servir d'exemple. Car chacun de nous sait tout, se semble comme un rêve, mais ne sait rien à l'état de veille. Comment dis-tu cela? Mais je suis bien mal avisé, à ce qu'il me semble, de remuer ici la question de la manière dont nous acquérons la science. Comment? Mon exemple lui-même, cher Socrate, a besoin d'un exemple. Eh bien dit, et que ce ne soit pas moi qui t'arrête en rien. Il faut parler, puisque te voilà si disposé à me suivre. Nous savons que les enfants, lorsqu'ils en sont encore à apprendre à lire, quoi donc ? Reconnaissent assez bien chacune des lettres dans les syllabes les plus courtes et les plus faciles, et sont capables d'en parler avec justesse. Sans doute, mais s'ils rencontrent ces mêmes lettres dans d'autres syllabes, ils restent incertains, et ils en jugent et parlent faussement. Cela est très vrai, mais ne serait-ce pas la chose du monde la plus facile et en même temps la plus belle que de s'y prendre de cette manière pour les conduire à ce qu'ils ne savent pas encore ? De quelle manière ? Il faudrait d'abord les ramener aux mots où ils ont dit juste sur ces mêmes lettres. Et en les y ramenant, placer à côté les mots qu'ils ne connaissent pas encore. Puis leur montrer, par la comparaison, que dans les deux composés, tout est semblable et de même nature. Jusqu'à ce que les endroits où ils prononcent juste, étant mis ainsi à côté de tous ceux où ils hésitent et devenant autant d'exemples, leur apprennent pour chacune de ces lettres, dans quelques syllabes qu'elles se trouvent, à désigner comme autre que tout le reste ce qui est autre, et comme toujours le même et identique à soi-même, ce qui est véritablement le même. Oui, en vérité, n'est-il pas assez clair pour nous maintenant qu'il y a exemple, lorsque ce qui est le même est justement reconnu comme tel dans deux choses séparées, et lorsque, bien entendu, est considéré comme un des deux cas distincts, mais analogue, il devient l'objet d'une seule et même opinion vraie? Cela me paraît clair. Devons-nous donc nous étonner que l'autre âme, qui est naturellement dans le même état pour les éléments de toute chose, trouve quelquefois la vérité sur chaque élément particulier dans certains composés et s'y attache? Puis qu'elle tombe dans l'erreur sur tous ces éléments considérés en d'autres sujets? Qu'elle se forme une opinion juste sur certains éléments quand elle les rencontre en certains touts? Et les méconnaissent entièrement transportés dans les compositions et pour ainsi dire dans les syllabes longues et difficiles que constituent les choses? Non, il n'y a là rien d'étonnant. En effet, mon cher, comment cela serait-il possible, en partant d'une opinion fausse, d'atteindre même à la moindre partie de la vérité et d'en acquérir l'intelligence? La chose n'est guère possible. Si donc il en est ainsi, nous ne ferions pas mal, toi et moi, de considérer d'abord le type général dans quelques petits exemples particuliers, et de nous élever ensuite à l'idée du roi qui, pour être très grande, n'en sera pas moins la même que nous avons devoir examiner sous une forme plus humble, et de reconnaître ainsi méthodiquement, au moyen d'un exemple, ce que c'est que le soin des choses de l'État, afin que nous passions du rêve à la veille. À merveille ! Il faut donc reprendre encore une fois ce que nous avons dit plus haut, que 1000 autres disputant à l'espèce des rois le soin de l'État, il faut les écarter tous et ne conserver que le roi seul. Et pour cela même, nous avons trouvé qu'il nous faut un exemple. Oui ? Quel exemple pourrait-on prendre qui représentât dans des proportions aussi petites que possible l'art politique et nous conduisît à notre but ? Par Jupiter, Socrate, veux-tu, si nous n'avons rien autre chose sous la main, que nous choisissions l'art du tisserand ? Et même si c'est ton avis, ne prenons pas l'art dans son entier. Peut-être nous aurons assez de l'art de tisser la laine, et cette seule partie nous montrera ce que nous voulons. Pourquoi pas? Eh bien, puisque précédemment nous avons procédé par division en séparant toutes les parties les unes des autres, que ne faisons-nous encore de même maintenant pour l'art de tisser? Et que ne parcourons-nous le sujet tout entier à la hâte et le plus brièvement possible pour revenir à ce qui peut nous servir dans la présente recherche? Comment dis-tu? L'exposé même sera ma réponse. C'est bien dit.